Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon, je reçois ce matin Denis Broliquier, le maire UDI du 2e arrondissement de Lyon. Denis Broliquier, bonjour.
Bonjour.
L'Euro 2016 approche à grands pas, c'est le 10 juin et tout le monde a un avis sur son organisation, sur les fanzones. Pour vous, cette fanzone ne doit pas se trouver sur la place Bellecour, ni ailleurs, puisque vous prenez son annulation en raison de la menace terroriste qui pèse sur la France. Pour vous, sécuriser un tel événement, c'est impossible aujourd'hui?
Non, ce n'est pas impossible, c'est difficile. Les forces de l'ordre sont épuisées, la menace terroriste est toujours extrêmement importante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la DRCI, le chef du renseignement français, qui a dit il y a quelques jours devant les députés que jamais la menace n'avait été aussi forte d'un attentat. Nous sommes toujours ennemis de Daesh et d'Al-Qaïda.
Oui.
Et il y a en plus des tensions sociales, il y a une contestation qui s'amplifie. Il y a un moment où il faut tenir compte de cette réalité. Pourquoi aller mettre autant de policiers sur la surveillance d'une fanzone, si ce n'est pour respecter le contrat qu'on a avec l'UEFA? Mais l'UEFA doit être capable de comprendre que la sécurité prime avant tout. Moi, je préfère avoir des forces de l'ordre autour du stade plutôt que à la fois autour de la place Bellecour et autour du stade.
Il y a quelques jours, je recevais le premier adjoint à la ville de Lyon, Georges Képenekian, qui reconnaissait que le risque zéro n'existait pas, mais qu'il ne fallait pas s'arrêter de vivre pour autant. Vous, ce n'est pas votre philosophie?
Ce n'est pas une question de philosophie. Lorsque vous êtes en responsabilité, vous devez dire les choses. Et lorsque le patron du renseignement dit que le risque d'aujourd'hui est supérieur à celui de novembre ou de décembre, et on se rappelle tous le 13 novembre, et on se rappelle tous l'annulation de la fête des Lumières, il y a un moment où il faut savoir prendre ses responsabilités. Moi, je suis très fier que la France accueille la Coupe de l'UEFA. Je suis très fier que la ville de Lyon soit mise à l'honneur à cette occasion. J'aime le foot, je vais au stade, je supporte mon équipe, et je supporterai l'équipe de France. Sauf que je suis responsable public, et je ne peux pas nier ce risque. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas baisser la garde face aux terroristes. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire comme s'il n'existait pas. Je crois qu'il y a un moment où la responsabilité oblige à dire les choses. Moi, je pense qu'il faut annuler les fanzones, pas uniquement à Lyon, dans toute la France.
En tout cas, le gouvernement a prévenu que ces fanzones seraient maintenues, sauf en cas d'incident majeur ou de menace. Il va donc falloir s'y faire. Vous ne pensez pas que ça peut avoir tout de même un côté bénéfique pour le 2e arrondissement, cette fanzone, que ce soit pour les commerces, pour les musées, pour la vie locale?
Ah, mais pour la ville de Lyon et pour le 2e arrondissement, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, il y aura du monde. Les commerces vont fonctionner, marcher. On va donner une image positive de la ville de Lyon.
Oui.
Moi, j'étais le premier à me réjouir que cette fanzone soit située au cœur de Lyon et non pas sur un terrain vague dans la lointaine banlieue.
Certains vous soupçonnent avec cette position de préparer les élections législatives 2017, puisque votre possible adversaire Emmanuel Hamelin des Républicains évoquait le transfert, lui, de la fanzone jusqu'à Gerland. Il aurait fallu alors pour vous trouver une autre idée pour le contrer.
Je ne suis pas dans ce genre de calcul politicien.
Oui.
Je me prépare à être candidat dans la deuxième circonscription de Lyon parce que j'estime être le candidat naturel. Je travaille pour préparer cette candidature. Je la travaille avec l'UDI, qui est mon parti politique et qui est ma sensibilité de centre-droit, qui correspond bien à la sensibilité d'une majorité de Lyonnais, je crois. Mais ça, je travaille le terrain, je travaille les idées, je ne travaille pas ce genre de stratégie de communication.
Il y a un autre projet de la municipalité qui vous fait tiquer, c'est celui des places de crèches municipales réservées aux entreprises. Alors ça débutera en septembre à Lyon, c'est pour permettre aux salariés de mettre leur enfant en crèche près de chez eux plutôt que de leur lieu de travail. Sur le papier, ça va en avantager certains, mais ça ne remet pas en cause la première mission des crèches. Ce sont quand même des Lyonnais et des familles qui vont en profiter. Quel est le problème?
Le problème, c'est que le maire de Lyon nous propose la semaine prochaine au conseil municipal un rapport disant « nous n'avons plus un sou ». Pour renflouer les caisses, nous allons louer les places de crèche municipales à des salariés d'entreprise. Alors, ces salariés d'entreprise sont des Lyonnais,
oui.
Sauf que ça casse l'égalité qui existait jusqu'à maintenant avec les familles. L'entreprise va payer 9000 euros et donc ces salariés, les salariés de l'entreprise riche, entre guillemets, vont bénéficier de places de crèche, et ça veut dire que d'autres Lyonnais qui auraient peut-être eu, avec le système habituel, droit à une place de crèche, ne l'auront plus parce qu'elle aura été expliquer parce qu'elle aura été prise par salariés. Il y a un problème, tout simplement, d'égalité des Lyonnais. Les crèches municipales, elles sont payées par les contribuables lyonnais. Tous les contribuables lyonnais, selon les critères fixés par la municipalité, ont droit à ces places de crèches.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu alors? Plus de concertation avec les élus déjà?
Non, il aurait fallu... Alors, on sait aujourd'hui qu'il manque de crèches.
Oui.
Il manque de berceaux, il manque de places de crèches. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est signer des accords avec le privé pour que le privé puisse faire plus de places de crèche, puisse en créer plus. Mmh. On aurait pu aussi échanger des places de crèche avec le privé. Le privé a des crèches très importantes dans certains secteurs et est complètement nu dans d'autres secteurs. Et bien à ce moment-là, ils nous passaient deux places dans un secteur et nous, on leur passait deux places. Mmh. Ça ne m'aurait pas choqué. Je ne suis pas anti-privé. Je ne suis pas contre les entreprises privées. Mais le fait que ces entreprises de crèche achètent des places à la ville de Lyon, aillent les revendre avec bénéfice, je suppose. Ce sont des entreprises qui sont destinées à faire de l'argent, qui sont destinées à être bénéficiaires. Donc ça veut dire que sur le dos de la ville de Lyon, sur le dos des contribuables lyonnais, elles vont aller se faire du bénéfice en revendant quelque chose qui appartient aux Lyonnais à des entreprises. Je comprends pas bien la logique. Où est l'intérêt de la ville de Lyon, si ce n'est de récupérer quelques centaines de milliers d'euros? Alors on nous dit que ces bénéfices vont être investis dans des nouvelles places de crèche. Enfin, il y a d'autres moyens pour créer une ou deux ou trois places de crèche supplémentaires par an.
Les échanges publics-privés, ça peut aussi s'appliquer au cas du musée des tissus dont on parle beaucoup en ce moment. Un médiateur a été nommé, il est censé trouver une solution pour sauver l'institution culturelle du 2e arrondissement avant la fin de l'année. On a l'impression que personne ne veut aider ou prendre par la main ce médiateur. Est-ce que pour vous, c'est devenu une patate chaude, ce musée?
C'est exactement ça. Personne n'a envie de s'intéresser de trop près à ce musée, parce que si on s'y intéresse de trop près, il faut à un moment reconnaître que ce sont des collections internationales exceptionnelles et qu'il faut les sauver et donc mettre la main à la poche. Et dans l'état actuel des finances publiques, toutes les collectivités, l'État disent « nous ne souhaitons pas nous engager puisque nous n'avons pas les moyens, mais vous avez des collections exceptionnelles, donc ça serait bien que quelqu'un d'autre prenne les choses en main ». Il faut être clair, le musée, il est en sursis. Il y a une deadline, 31 décembre 2016.
Oui.
Il faut que l'État s'engage. Sans la tutelle de l'État, il n'y aura pas d'issue. La Chambre de commerce, parce que l'État lui a pris de l'argent, ne peut plus assumer ce musée. On est capable de le comprendre. Les collectivités locales ne peuvent pas assumer seules ce musée. On est capable de le comprendre. Ça veut dire qu'il faut que l'État prenne la suite, le lead, soit leader là-dessus. Et si l'État s'engage, les collectivités derrière s'engageront et des privés. Je suis allé encore la semaine dernière à Paris rencontrer un certain nombre de mécènes potentiels privés, s'engageront aussi, je vous l'assure, et les professionnels aussi du textile s'engageront. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui trouver le leader et derrière le leader, la population et les institutions suivront. Et c'est, j'ai l'impression qu'en tant qu'élu, je suis à peu près le seul à m'y intéresser et à mettre toute mon énergie pour prendre des contacts, pour pousser le dossier, pour le ressortir de la poubelle dans laquelle on veut le mettre. Il y a un moment où il faut aussi que tous les élus lyonnais et les élus nationaux s'y mettent. C'est pas parce que je suis maire du 2e arrondissement, responsable d'un groupe d'élus politiques ici, que je dois être le seul à porter ce sujet. Il y a des jours où je me sens bien seul pour porter le musée des tissus.
Terminons sur une note plus positive, Denis Broliquet. Si je vous dis à 6 à 7, si je vous dis déclassement promis par le gouvernement, vous retrouvez légèrement le sourire. On attend avant la fin de l'été les préconisations du préfet du Rhône. Mais face à cette euphorie, que ce soit des riverains ou de la classe politique, est-ce que le plus dur reste à faire aujourd'hui?
C'est une bonne nouvelle. Le déclassement de l'autoroute à 6 à 7 depuis la Porte de Lyon jusqu'à Pierre-Bénite, ça c'est super et on s'est réjoui. Très franchement, j'y croyais à peine. Merci au ministre d'avoir ouvert cette possibilité et merci au président de la métropole d'avoir fait cette demande et de l'avoir obtenue. Maintenant, il y a 115 000 voitures qui passent sous Fourvière chaque jour.
Oui.
C'est pas parce qu'un ministre signe un décret, qui n'est pas encore signé d'ailleurs, mais qui le sera visiblement à terme, que les 115 000 voitures s'évaporent. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. Et je ne vois pas d'autre solution que le grand contournement autoroutier par l'Est. Je ne vois pas d'autre solution que de terminer le boulevard de Ceinture avec la construction de l'anneau des sciences, si on veut à terme que le quai Perrache, par exemple, soit un vrai boulevard urbain sympathique comme peut l'être le quai Charles de Gaulle devant la Cité internationale. Aujourd'hui, on estime que 15 à 20% du trafic est un trafic de transit. Ce trafic-là, il faut le sortir du tunnel de Souffourvière et de cette autoroute, ces tronçons d'autoroute. En revanche, 80% c'est du trafic interne à l'agglomération. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement avec un décret qu'on y arrivera. Il faut investir, il faut continuer. Certains disent avec les transports en commun, on va arriver à faire diminuer le trafic de 10 000 ou de 20 000 voitures. Oui. Je n'y crois pas une seconde. Qu'on mette des moyens pour les transports en commun, c'est bien. Mais on n'arrivera pas à baisser de 30 000, 40 000, 50 000 voitures. Et pourtant, si on veut transformer le quai Perrache en boulevard urbain, il faut avoir une diminution de ce type. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Oui, puisque l'avantage des transports en commun, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que de réaliser l'anneau des sciences. Aujourd'hui, où est-ce qu'on le trouve, cet argent, pour le réaliser?
Il y a un concessionnaire qui a envie de mettre de l'argent sur la table et qui va en mettre. Il y a possibilité de faire appel à l'emprunt aussi. Et lorsqu'il s'agit d'investissement, je suis contre l'endettement trop fort des collectivités locales, mais lorsqu'il s'agit d'investissement pour développer l'Ouest lyonnais, pour développer les entreprises, pour développer l'emploi, donc développer les richesses, j'estime que c'est assez naturel d'emprunter. Et puis, on va mettre dans quelques jours plus de 120 millions d'euros, 270 au total, mais plus de 120 millions d'euros pour rembourser pour une indemnité qu'on va donner aux banques liées aux emprunts toxiques. Croyez pas qu'on aurait mieux fait de mettre ces centaines de millions d'euros dans des équipements utiles plutôt que de couvrir les erreurs de gestion des collectivités passées.
Merci Denis Bourliquier. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.